Merci. Waouh, c'est chouette d'être à nouveau là devant vous, me tenir et puis de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et du coup, comme Mathieu l'a dit, on va démarrer une nouvelle série ce matin. Il y aura 4 enseignements, donc là, je vais vous partager le premier. Et on était dans une série depuis le mois de janvier qu'on a appelée Disciples en 3D. Et je dirais que c'est ça fait partie, on ne quitte pas cette pensée-là d'être disciple. Donc je vous avais déjà partagé un peu ça il y a 2 semaines sur le fait que qu'est-ce que ça voulait dire être disciple. Être disciple, c'est suivre Jésus. Et suivre Jésus, ça implique des changements dans notre vie concrète. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime partager quand je lis la parole, même quand j'écoute des messages, j'aime voir la transformation concrète que ça prend l'évangile dans ma vie, dans la vie des autres autour de moi. Je trouve ça passionnant. Et puis, tellement riche de voir tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu peut faire et comment Dieu transforme à travers sa parole, à travers les enseignements que Jésus nous a laissés, entre autres. Et donc, ce matin, on démarre une série où on va parler de l'argent. Et alors, je veux tout de suite vous mettre à l'aise parce que l'argent, c'est pas un sujet très... comment dire, qui nous met toujours à l'aise. C'est un sujet qu'on aborde pas souvent dans l'Église. Et c'est vrai que avec l'équipe, on a vraiment senti Dieu nous parler, nous reprendre même sur le fait que c'était important, déjà que nous, on se laisse enseigner là-dessus, mais aussi qu'on enseigne l'Église, notre communauté, sur l'argent. Et pour vous rassurer, on n'est pas des experts. On a un expert comptable dans l'équipe des responsables, Olivier, qui n'est pas là ce matin, qui vous embrasse. Mais on n'est pas des experts, on n'a pas tout compris, mais on a simplement envie de vous partager notre cœur, ce que Dieu a mis sur notre cœur, et de pouvoir vous donner l'opportunité de grandir là-dedans, de vous laisser challenger par Dieu, de vous laisser transformer par Dieu, comme il le fait avec nous. Hein. On est en chemin, on n'est pas arrivé, mais on veut vous partager ça pour que vous puissiez vous-même grandir dans votre vie de disciple, parce que c'est un des aspects de votre vie, de notre vie de disciple, l'argent. Et donc ce message, je vais commencer, ça s'appelle « moins égale plus ». Alors, on va pas faire des maths, ce n'est pas du tout, les maths, c'est pas du tout mon fort, mais on va aller explorer un petit peu plus ce que ça veut dire « moins égale plus ». Et donc, en préparant ce message, comme je vous disais, l'argent, c'est vraiment quelque chose de tabou. En fait, on voit des pubs de partout, on est baigné là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment enseigner, parler. Moi, ce n'est vraiment pas une passion, l'argent, je vous dis, ça me gonfle de faire les comptes. C'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Il y en a vraiment, c'est une passion, mais ce n'est pas le cas personnellement. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'était tabou dans la société, tabou dans l'Église aussi, on en parle peu. C'est même parfois quelque chose de honteux. On ne va pas oser en parler, il ne faut surtout pas en parler comme si. Et en fait, je sens vraiment l'esprit qui veut lever ce tabou parce que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et peut-être que nous, on a un problème avec l'argent, mais Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir des enseignements, peut-être que vous avez entendu, ou voilà, qui ont été déséquilibrés par rapport à l'argent. Et mon but, ce n'est pas ça. Et même ce matin, mon but, ce n'est pas de vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est juste d'appuyer, comme d'ouvrir une petite porte dans votre cœur et laisser le Saint-Esprit vous parler et laisser le Saint-Esprit vous challenger. Ouvrir, comme soulever le couvercle et dire « Ok, où est-ce que j'en suis par rapport à l'argent ? Quelle place ça a dans ma vie ?» Et comme je disais, c'est pas quelque chose... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas le souvenir que mes parents, dans l'éducation extraordinaire qu'ils m'ont donnée, qui m'aient vraiment parlé de l'argent parce qu'on n'en parlait pas trop, j'avais pas d'argent de poche, c'était pas quelque chose de... Je dirais dans la culture familiale qui était présent. À l'école, je pense que la plupart d'entre nous, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a été enseigné. On ne nous apprend pas à gérer notre argent, sauf si on fait des études peut-être là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose de commun qui est transmis en tout cas. Et pourtant, comme je disais, notre monde, il est régi par ça. Il est régi par l'argent et on ne peut pas y échapper. On est tous confrontés. On a tous un compte en banque, normalement. On en a tous besoin de l'argent pour vivre. C'est quand même une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et Jésus, il n'avait pas peur de parler d'argent. Dans les évangiles, je crois qu'il y a 38 ou 39 paraboles et il y en a à peu près 40% dans lesquelles il est question d'argent. Voilà, j'ai mis une photo qui peut... Ne soyez pas choqués par cette photo. Voilà, j'ai hésité à la mettre, mais c'est juste... Mon but, c'est juste de vous dire, Jésus, il n'avait pas peur de parler de l'argent. Il n'avait pas peur de l'argent. L'argent, ce n'était pas un géant qui lui faisait peur ou quoi. Il n'avait pas peur de ça. Et dans la Bible, il y a plus de 2000 versets qui parlent de l'argent, des biens, des possessions. Et à titre comparatif, il y en a à peu près 500 sur la prière et la foi. Donc, tout ça pour dire que ça vaut le coup de se pencher dessus. Ça vaut le coup de lever le tabou, de lever le couvercle et de vraiment creuser, ok, pourquoi Dieu, il nous parle de l'argent, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? Et donc, je vous encourage vraiment à ne pas vous braquer, à ne pas fermer votre cœur, à ne pas dire « Ah, ça ne me concerne pas ». Parce que vous pouvez avoir une relation saine hein, avec l'argent, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je vous encourage à ouvrir vos cœurs et à laisser le Saint-Esprit vous parler ce matin, parce que je suis sûre qu'il a quelque chose pour vous. Et on va vous donner des petites pistes de réflexion pour opérer des changements dans vos vies. Je vous partage juste un cheminement. Donc à Noël, avec Mathieu, on a vraiment eu une remise en question sur notre façon de gérer notre argent, ce que Dieu nous confiait. Et ça a été on est dans un chemin de repentance. Hein. La repentance, ça veut dire changer de façon de penser, changer de direction. Et on est sur ce chemin-là. Mais d'abord, il y a eu un constat. Et je vous assure que ce constat-là, il était douloureux pour nous. Il était... Juste d'ouvrir les yeux, de dire « Waouh, où est-ce qu'on va là ?» Et bien si on continue comme ça, on va aller dans le mur. Et on a été amené à écouter une série de messages sur le sujet qui nous a vraiment beaucoup parlé et qui nous a ouvert les yeux en fait sur quelque chose qui était tellement évident, mais on était comme aveuglés, on ne voyait même plus la façon dont on gérait notre argent, que ce n'était pas la bonne façon, et de façon globale, hein, qu'on était comme aveuglés par notre façon de faire. Et donc, on a dit, ça suffit. Et en même temps, c'était pas facile de faire ce constat, mais ce qui est génial avec Dieu, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Et ça nous a vraiment donné de l'espoir de nous dire, waouh, ok, peut-être qu'on n'a pas, été toujours sages, on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais il y a de l'espoir. C'est pas trop tard. Il n'y a pas de situation qui est sans espoir, désespérée. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours possibilité de faire des changements. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Et donc, je voulais vous parler ce matin de moins égale plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On vit en pensant que avoir plus, c'est mieux. Avoir plus, c'est ce qui me rendra heureux. Je prends un bonbon, deux bonbons, c'est mieux. Trois bonbons, c'est mieux. Quatre bonbons, c'est mieux, etc. Ça, on peut l'appliquer à l'infini. Sauf qu'au bout d'un moment, si on mange trop de bonbons, on finit par avoir mal au ventre. Et plus, parfois. On a fait cet exercice-là récemment avec nos filles. Pour leur parler du fait d'apprendre à se contenter de ce qu'on a, on a mis un petit bol de bonbons, on s'est réunis autour de la table et on a dit, bah, chacun à son tour, on va prendre un bonbon, on va prendre le temps de le manger, de le savourer, de voir qu'est-ce que... Et puis on va dire, ah, bah, j'aime bien parce que c'est sucré, parce que ça a ce goût-là et c'est agréable. Et puis, à un moment donné, on va essayer de s'arrêter tout seul, sans que ce soit papa et maman qui disent stop. Et on va apprendre à dire, c'est bon, j'en ai assez eu, je m'arrête là. Et bien, c'était un exercice très dur pour nos filles, mais aussi pour moi, parce que j'aime les bonbons, de savoir m'arrêter et de dire stop. On leur parlait de ce verset qu'on a découvert qui dit « Si tu trouves du miel, n'en prends que ce qui te suffit, sinon tu risques de le vomir. » C'est dans Proverbe. proverbe, je ne sais plus exactement la référence, mais vous pouvez le retrouver. Et donc souvent, on le ressort avec nos filles dans différentes situations, que ce soit par rapport à des choses qu'on mange, mais aussi par rapport à plein de choses dans la vie, de prendre, de savoir se rassasier, de savoir se contenter de ce qu'on a. Et donc voilà, ça c'est un petit exemple rigolo qu'on vit en famille. Mais ce n'est pas facile. Et ça génère beaucoup de frustration, croyez-moi, surtout avec des enfants de 3-4 ans. C'est très, très dur de savoir s'arrêter. Voilà. Et un autre verset que je voudrais vous partager, c'est Ecclésiaste 4, verset 6. Ça va être un peu un verset que je vais reprendre pendant la matinée. « Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. » Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. C'est assez clair. Pourquoi ? Quand j'ai les deux mains pleines, eh ben, je suis un peu bloquée. Si j'ai une seule main pleine, avec l'autre main, je peux donner, je peux réconforter, je peux encourager, je peux accompagner, j'ai de la disponibilité pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un. C'est simple hein, jusqu'à présent. Voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de profondeur, de richesse dans ce verset. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. Et c'est important on va essayer d'aller explorer un peu plus en profondeur comment ça peut être concrétiser ça dans nos vies. Et je vais vous parler, donc, il y a quelques années, je vais vous parler d'une démarche qu'on a commencée il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans, dans 3 ans, après la naissance de notre troisième fille. Donc pour le petit historique, je suis maman au foyer et j'ai beaucoup de plaisir à élever mes enfants. Et donc ça veut dire que je suis beaucoup dans mon environnement quotidien, dans ma maison. Et il y a 3 ans, après la naissance de notre troisième fille, je suis arrivée à un point dans ma vie où j'étouffais un petit peu. Voilà, j'avais l'impression que je passais mon temps à ranger, à nettoyer, à faire des choses, mais à être tout le temps un peu ce sentiment d'être débordée. Et puis, j'ai été amenée par notamment la famille Weiner, mais aussi une blogueuse que je suivais sur Internet, à découvrir qu'est-ce que c'était le minimalisme. Je fais une petite parenthèse là-dessus, je ne veux pas m'étaler, mais ça fait partie du message que je veux des clés que je peux vous confier ce matin. Et du coup, j'ai été amenée à... Enfin, Dieu a vraiment utilisé ça. Voilà, j'ai mis des petites images sur qu'est-ce que ça peut être le minimalisme. Mais ce n'est pas ce que je veux vous partager ce matin. Donc, ça peut être une pièce vide avec juste un minimum de choses. Ça peut aussi être... Il y en a qui disent, bah voilà, je veux vivre avec, sans objet. C'est ça mon but. C'est ça que je veux... c'est comme ça que je vois le minimalisme. Mais ce n'est pas ça ce matin que je veux vous partager. C'est vivre pour ce qui compte vraiment. Et c'est ça, le message, c'est vivre pour l'essentiel. Simplifier nos vies, désencombrer ma vie, en fait, pour faire de la place, comme je reviens à ce verset, il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail. Comme quand on a une main disponible, on a de la place pour ce qui compte vraiment, pour le plus important. Et ce matin, je vais faire un petit sondage. Si je vous demande qu'est-ce qui a vraiment de l'importance dans vos vies, si vous faites le point, si vous dites bah, qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce que vous allez me dire ? La famille ? Comment ? L'amour de Dieu ? Autre chose ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. On y met. Souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent. Hein. C'est les relations, la santé, le temps avec Dieu. Voilà, c'est ça qui nous nourrit. On ne va pas dire ce qui est le plus important, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon salaire, c'est ce que je possède. On est d'accord ? Et deuxième petit sondage, ça vous n'allez pas répondre à voix haute, mais posez-vous la question. Est-ce que la façon dont j'utilise mon temps et mon argent, ça reflète mes priorités ? mes priorités, c'est quoi ? C'est ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important. Est-ce que, quand je regarde mes journées, mes semaines, parce que c'est ça la vie, c'est la somme de nos jours, de nos semaines qui passent, est-ce que ça reflète l'utilisation que j'ai de mon argent, de mon temps, est-ce que ça reflète ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important ? Imaginez, parfois, comme s'il y avait une petite caméra qui filmait vos journées, et après vous pouvez repasser le film de votre journée. Regardez-vous, qu'est-ce que je fais de mes journées ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Moi, je suis challengée, je vous dis encore cette semaine, je vous partage mon quotidien de maman, hein. C'est pas toujours tout très, très glamour, mais j'étais là à m'activer, vite, vite, oh là là, j'ai plein de choses à faire et tout. Et puis d'un coup, je m'arrête, je me dis, mais je vais jamais m'arrêter si je suis toujours en train de faire ce que je dois faire, oui, j'ai des papiers, j'ai des machines, j'ai des repas, j'ai les courses. Au bout d'un moment, il faut que je dise stop, il faut que je dise ça suffit, je m'arrête, parce que c'est pas ça le plus important. Et savoir s'arrêter, moi, parfois, ça me coûte, parce que je suis tellement lancée, je veux pas prendre de retard et tout, puis parfois, j'ai ma fille qui est là, hey, maman, on peut jouer à Uno, hey, maman, on peut faire un câlin, tu peux me lire une histoire. Et c'est dur, parfois, pour moi, de m'arrêter, de dire, attends, là, je fais une pause, c'est pas ça le plus important, là, j'ai besoin de passer un temps avec Dieu, j'ai besoin de passer un temps avec mes enfants, j'ai besoin de passer un temps avec mon mari, j'ai besoin de passer un temps juste où je me ressource. Et parfois, on a du mal à ça. Et en fait, on peut passer tellement de temps dans notre vie à courir après plein de choses qui, au final, si on est honnête, n'ont pas vraiment d'importance. Donc ça, c'est vrai pour l'acquisition des choses, mais aussi, qu'est-ce que je fais de mon temps ? Voilà, comme je vous disais, l'exemple du ménage. Et comme je vous disais, ça coûte de parfois dire stop, de parfois s'arrêter. Comme je vous ai dit à Noël, quand on a eu cette prise de conscience avec Mathieu, ça nous a coûté. Tout d'un coup, ça a été un constat douloureux. Et puis, pour qu'il y ait repentance, il faut d'abord qu'il y ait un constat. Il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord dire waouh, oui, ok. Là, il y a un souci, je m'arrête et je vais changer de direction. Et ça coûte et ça demande surtout d'être intentionnel. Et ce n'est pas quelque chose de rentrer dans une démarche saine vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de nos biens, même vis-à-vis de notre agenda. Parce que ce matin, ce n'est pas juste sur les biens matériels, c'est aussi par rapport à nos agendas qui sont surbookés. Et je suis sûre que pour la plupart d'entre nous, c'est vrai. On a tellement de sollicitations, on a tellement d'opportunités qu'on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à dire stop. Et ça coûte de dire stop, je m'arrête et je suis intentionnelle. Où je vais mettre les priorités ? À quoi je vais dire oui ? À quoi je vais dire non ? Dans mon agenda, mais aussi dans quoi je vais investir mon argent, mes biens. Et pour ça, pour savoir à quoi on dit non, et ben en fait, il faut savoir pourquoi on dit non. Et pour ça, c'est important d'être intentionnel et d'avoir une vision pour sa vie. Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Si c'est ça mes priorités, comment je vais ? Quel est le chemin pour pointer vers mes priorités. C'est pas une destination en soi, hein, c'est un chemin, vraiment. Comme notre vie de disciple, c'est un chemin. Et à partir du moment où j'ai défini, ok, c'est ça que je veux vivre, je veux développer des relations proches avec mes enfants, être proche, pareil, dans mon couple, développer des amitiés de qualité, tout ça, être généreux, c'est plein de choses comme ça que Dieu peut nous mettre à cœur, mais réfléchir, c'est quoi qui reste au final, à la fin de notre vie ? Qu'est-ce qu'on va laisser ? Donc c'est important de se poser la question, quelle est ma vision ? Quelle est ma vision ? Et d'être intentionnel. Et avoir une vie simplifiée, ça veut pas dire, enfin simplifier sa vie, ça veut pas dire avoir une vie appauvrie. Hein ? Au contraire, beaucoup de gens croient à tort que simplifier sa vie, ça veut dire renoncer à ce que je désire le plus. On a peur de manquer. On a peur de ne plus avoir ce qui nous fait trop envie. Mais au contraire, en fait, ça c'est un mensonge. Simplifier sa vie, c'est dire oui à ce qui compte le plus. C'est vivre pour ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important. Jésus nous a promis la vie en abondance. Jean 10:10. La vie en abondance, c'est différent de la vie dans la surconsommation, dans le surbooking de nos agendas. C'est pas ça la vie en abondance. et dans la peur du manque. Et je trouve ça fou qu'on soit, enfin moi personnellement en tout cas, je peux être tellement vite dans la peur du manque alors qu'on vit dans une société où on est dans la, je sais, ouais, la surabondance, enfin en tout cas la surstimulation tout le temps. On est dans une société qui est riche, où on manque franchement, enfin on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir. On est dans un pays riche, mais on a peur de manquer de quoi en fait ? Et je me suis dit, mais on a peur de manquer de l'essentiel ou du superflu ? Et on entend souvent, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des pays d'Afrique, mais je sais plus avec qui on en parlait encore cette semaine. Bah non, la semaine dernière avec Nicolas Tevny qui était là, qui nous partageait que il avait été en mission, il est aumônier militaire pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, et il avait été en mission plusieurs fois au Tchad et au Niger. Et il disait que le dimanche, du coup, il allait visiter les églises locales. Et il emmenait avec lui des soldats qui avaient envie de venir, qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais qui étaient en recherche. Et souvent, ils étaient complètement frappés. Ils disaient, mais ces gens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et ils louent Dieu de tout leur cœur. Et ils donnent tout à Dieu. Mais ils n'ont rien. Mais comment ils font ? Et c'est presque... Il disait, mais ils en viennent presque à les envier de voir leur cœur qui est libre, qui n'est pas encombré, qui n'est pas comme aveuglé par tout ce qu'on peut avoir, mais qui est complètement libre et qui loue Dieu, pas en fonction de ce qu'ils ont, mais juste loue Dieu parce que Dieu est bon, parce que Dieu est Dieu, tout simplement. Et c'est, enfin, quand Nicolas partageait ça, c'est vrai que souvent on entend ces témoignages-là. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on entend. Et en fait, on tombe tous, malgré nous, un peu dans ce piège-là, même si on le sait. Et je repensais à ce chant qui dit « Rien au monde ne peut me combler ». Quand on chante ça, je me disais « Mais est-ce que tu penses aux paroles ?»« Rien au monde ne peut me combler », tu le proclames. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on est toujours là, à courir après le vent, à chercher. Ah, j'ai envie de ci, ah, j'ai envie de ça. Donc, j'ai un peu décortiqué le mécanisme du besoin. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans notre cœur, dans notre tête ? On crée un besoin. Là, je vais juste, c'est mon analyse, hein, c'est pas une analyse d'un grand psychologue. Tout d'un coup, paf, on a comme une pulsion, un besoin. Et du coup, on y pense tout le temps. Et je sais pas si c'est comme vous, en plus, maintenant, il y a la publicité ciblée. Si on a le malheur de chercher sur Internet, sur les moteurs de recherche, cet objet en question, on va avoir des pubs qui vont s'afficher de partout. C'est pas pratique pour les cadeaux de Noël si on veut faire une surprise à son mari, parce que du coup, il voit tout ce qu'on a cherché dans les pubs. Et même... Alors ça, c'est la publicité ciblée qui est sur Internet. Mais même, je ne sais pas si ça vous l'a déjà... Je pense que ça vous l'a déjà fait. Il y a quelques temps, on cherchait une voiture. Et du coup, on voyait cette voiture qu'on cherchait de partout quand on sortait dans la circulation. Oh, il y en a une. Oh, il y en a encore une. C'est comme si notre cerveau, il était un peu conditionné. Et donc, à force de voir ça, c'est inconscient, hein. Mais c'est comme si ça crée un inconfort, un besoin en nous. Et ça nous convainc que la seule façon de combler ce besoin, eh ben c'est qu'il faut acquérir ça. Il faut faire ça, il faut l'acheter. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne suis pas toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on l'achète. D'abord, on va se convaincre. Mais pourquoi j'en ai besoin ? Mais si, j'en ai besoin pour ci, pour ça et tout. Je me vise moi en premier, hein, quand je vous dis ça. Alors on achète, et là, ah, je suis content, ça va mieux. Pendant un jour, pendant une semaine. Et puis d'un coup, pof, il y a autre chose. Et puis ça recommence. C'est un cercle qui recommence. Et en fait, c'est un véritable esclavage. Et on ne s'en rend même pas compte, hein, mais on est complètement soumis à ces pulsions, à ces faux besoins. Et puis ça recommence, et puis on ne s'en rend plus compte. Et puis après, si c'est des choses qui ont beaucoup de valeur, on peut s'y attacher. Ça devient même douloureux de penser à s'en séparer. Et je vous dis, moi, honnêtement, quand à Noël, là, quand on disait, bon, il va falloir qu'on fasse des choix, il va falloir qu'on fasse des sacrifices, qu'est-ce qu'on va sacrifier ? Et parfois, l'idée même, nous, de notre famille, de nous séparer de certaines choses, ah, j'étais triste. Et là, je pensais à Jésus, au jeune homme riche qui est venu, le jeune homme riche qui est venu voir Jésus, qui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle ? Il lui dit les commandements, c'est bon, j'ai tout fait ça, Seigneur. Alors qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ben va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, il est tout triste. Ben moi, franchement, je vous dis, je me sentais comme le jeune homme riche. Et je disais, non, Seigneur, c'est pas possible. Non, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Et si, waouh. Si, si, il y a ça aussi dans mon cœur. Ça peut devenir aussi des idoles. Et des choses qui, voilà, qui deviennent trop précieuses. On devient comme parfois maniaque par rapport à ça. Et pourtant, il y a tellement de libération à trouver quand on se détache de ça. Et je vous assure, quand j'ai réalisé qu'il y avait ça dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ah, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être attachée à ça au point que, ah non, ça me rend triste, non, je ne veux pas lâcher ça. Non, 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 je veux t'abandonner tout. C'est un renoncement. Il y a une part de sacrifice, mais c'est le chemin. Mais en même temps, waouh, c'est ça que je vis, c'est ça que je veux vivre. Je vais être libérée, je vais être libérée parce que c'est, je vous dis, c'est un véritable esclavage. Et moi, dans les messages qui suivront, on aura l'occasion de vous parler des dettes, de tout ça. Et nous, on est en plein chemin là-dessus. Mais ah, l'appel de la liberté vis-à-vis de ça, c'était plus fort que la douleur, le prix que ça pouvait coûter de me séparer de ces choses-là. Et Jésus nous met en garde. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. Il y en a un, l'argent, il ne sera jamais rassasié. Comme je vous disais, il y aura toujours quelque chose de nouveau qui va venir. Toujours, toujours. Il y a un philosophe anglais du XVIe siècle, Francis Bacon, qui a dit « L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. » Et pourtant, il devient tellement, tellement facilement notre maître. Et c'est difficile, on est en permanence stimulé dans nos sens, des pubs de partout. On apprend à nos filles, on n'a pas la télé, mais on leur met souvent des petits dessins animés sur YouTube. Il y a des pubs tout le temps qui viennent. Et alors, on leur apprend à dire « Regardez !» Ça, parce que du coup, forcément, elles disent « Ah maman, il y a la pub Kinder ou je ne sais pas quoi. » Et je dis « Oui, c'est fait exprès pour que tu aies envie d'acheter. » On leur explique. Alors du coup, maintenant, dès qu'elles voient une pub, elles disent « Ah maman, il y a une pub de Nutella, c'est pour qu'on achète du Nutella. » Je dis « Oui. » Voilà. Et puis, on est aussi dans cette culture où le but de la vie, c'est se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, tout le temps se faire plaisir. Et Dieu n'est pas contre. Hein, il aime donner des bonnes choses à ses enfants. Hein. Ne tombons pas non plus dans un esprit de pauvreté, dans un esprit de « Ah non, Dieu veut que ça soit... veut pas que je me régale et tout. » Dieu, il aime nous faire plaisir. Dieu est un Dieu généreux, est un Dieu de l'abondance. C'est pas ça, hein, l'idée. Mais est-ce que la quête de ma vie, est-ce que la priorité de ma vie, c'est juste de me faire plaisir, de me faire plaisir, de me faire plaisir. Et puis après, j'ai plus rien pour faire plaisir aux autres. C'est pourquoi c'est important de faire une pause, de s'arrêter, de voir, waouh, où est-ce que j'en suis? C'est quoi que je veux vivre? À la fin de ma vie, parce qu'on y arrivera tous, qu'est-ce qui restera? Ça sera le plus important? Il y en a plusieurs là qui ont écrit des livres. Je crois qu'il y a Brené Brown qui a écrit un livre sur ce que les gens, sur la fin de leur vie, disent. Qu'est-ce qui a été le plus important? Qu'est-ce qui a été le plus... Au final, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui reste? Luc 12, verset 15. Des paroles de Jésus encore. « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Et un autre verset, Luc 12, verset 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et j'ai réfléchi un peu à ce verset, parce qu'au début, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que c'était un peu l'inverse. « Là où est votre cœur, là où sera votre trésor. » Et je pense que c'est vrai aussi. Mais Jésus dit « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Regardez, parfois, on parlait de ça encore ce matin avec Mathieu. Regardez votre compte en banque, ça reflète aussi dans quoi je mets mon cœur, dans quoi je m'investis. Qu'est-ce qu'on va cultiver dans notre vie? Qu'est-ce qui va diriger notre vie? Parce que ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Philippiens 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasiée ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Waouh, il y a tellement de profondeur et de sagesse dans ce verset. Le secret du contentement. Je sais vivre dans l'abondance et je sais aussi vivre dans le dénuement. Alors, je vais vous laisser trois pistes concrètes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai appelé ça activation RER. Premièrement, réduire. Couper net. Hein, couper net notre façon de consommer. À la fin de notre vie, ce qui comptera vraiment, c'est pas ce qu'on a. Deuxièmement, donc ça, c'est, je vous dis, je vous le partage encore, c'est un cheminement, nous, dans lequel on est. Réfléchir, ça s'accompagne aussi d'une démarche aussi respectueuse de l'environnement. Hein. Mais voilà, je vous dis, on est en chemin. Ne soyez pas offensés par ce que je dis, juste laissez le Saint-Esprit vous révéler ce qu'il a à vous révéler. Deuxièmement, évacuer, désencombrer, ça vous libère. Et un petit exercice très concret, j'ai fait du coup donc il y a 3 ans, j'ai fait une formation en ligne dans cette démarche du minimalisme. Et la première chose, je vous donne, ceux qui veulent le faire peuvent le faire, pour réaliser ça, c'est que le premier exercice était désencombrer toutes les surfaces dans la maison. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une corbeille et j'ai ramassé tout ce qui traînait sur le buffet, sur tout ce que je voyais, j'ai tout enlevé. Tout ce qu'il y avait en haut, les jouets confisqués en haut des étagères, les papiers qu'on ne sait plus où mettre, enfin tout ce qui traîne, je l'ai enlevé. Et puis après, j'ai trié. Est-ce que ça, je garde? Est-ce que je ne garde pas? Est-ce que je le range à un endroit? Et rien que ça, ah là là, c'est fou. Mais quand on lit, c'est un principe naturel, hein, j'ai juste enlevé ça. Et bien, dans ma tête, j'étais apaisée. Et je vous assure, il n'y a rien de magique. Il y a une étude qui a été menée, je crois, par une université en Californie, qui dit qu'il y a beaucoup de stress pour une maman, notamment au foyer, dû au fait qu'il y a du bazar tout le temps. Moi, je n'arrive pas, ça me stresse au bout d'un moment. Voilà. Et du coup, le fait de désencombrer comme ça visuellement, eh ben, ça a apporté un apaisement, mais c'est un principe naturel que je vous encourage à tester en tout cas chez vous. Et à aller plus loin si ça vous parle, si vous le constatez, mais je suis sûre que vous pouvez le constater. Et à vous interroger, pourquoi c'est si dur de se débarrasser de choses? Oui, à la société dans laquelle on vit, mais est-ce qu'il y a eu des manques, peut-être dans mon enfance? Est-ce qu'il y a un héritage par rapport à la guerre? Même si nos parents, moi mes parents n'ont pas connu la guerre, mais mes grands-parents ont connu la guerre. Et peut-être que vous, bah, c'est vos parents, peut-être c'est vos arrière-grands-parents. Mais il y a aussi des choses, il y a peut-être eu des peurs comme ça qui ont été vécues et qui continuent d'alimenter notre façon de vivre, nos réflexions par rapport à ça. Et pourtant, comme je disais, on est débordé de choix. On a tellement de choix qu'on ne sait plus choisir. On n'arrive plus à choisir tellement on a de choix. Je pense que ça nous le fait tous, que ce soit par rapport à comment on s'habille. Souvent, on pense à voilà, souvent une femme qui est devant sa garde-robe et qui dit « j'ai rien à me mettre ». Ça nous est tous arrivé. C'est un peu des clichés, mais c'est tellement vrai. Moi, combien de fois, pareil, mes filles, « maman, je m'ennuie, mais tu as plein de jouets. Pourquoi tu t'ennuies ? Mais je m'ennuie, maman hein ?» Et en fait, on a trop d'options, en fait. On n'arrive plus à choisir. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à aller explorer. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose qui va participer à votre chemin de libération vis-à-vis du matériel, vis-à-vis de l'argent. Et troisième point, rembourser. Payer nos dettes. Nous, on est en plein là-dedans. Et ça, je crois que c'est Mathieu qui aura l'occasion de vous partager là-dessus. C'est aussi un chemin... Nous, une prise de conscience qu'on a eue, qui faisait mal. Mais franchement, je vous le partage, là, ça fait quelques mois, hein, mais on voit déjà des fruits extraordinaires. De choses, voilà, simplement, oui, il y a du renoncement, oui, il y a du sacrifice, mais aussi de la sagesse à recevoir et des choses à mettre en place, et on voit du fruit. Et puis Dieu est bon aussi. Dieu fait grâce. Et vous savez, les personnes les plus riches au monde, ce n'est pas celles qui possèdent le plus, mais c'est celles qui ont besoin, qui se contentent en fait du peu. qui n'ont pas besoin d'avoir toujours plus. C'est ça, en fait, la vraie richesse. C'est un paradoxe. Hein. Et je voudrais revenir juste sur le premier verset que j'ai partagé de l'Ecclésiaste. Il vaut mieux une main pleine de repos. Et je vous encourage juste à repenser à ce verset, à réfléchir. Il vaut mieux une main pleine de relations proches avec mes enfants, avec ma famille, avec mon mari, plutôt que deux mains pleines de travail et plus de temps pour ça. On peut mettre d'autres choses derrière, en fonction de ce qui est vraiment important, de nos priorités dans la vie. Est-ce que mes priorités, est-ce que la vision que j'ai pour ma vie, est-ce que l'argent, ce que j'ai, mon temps et mon argent, ça sert ça? Ou est-ce que c'est le contraire? Et vous savez, si on a toujours... Il y a Pascal, un philosophe, qui disait qu'on avait tous en nous un vide en forme de Dieu, qu'il n'y a que Dieu qui peut combler. Et ça, il n'y a que Jésus qui pourra remplir de toute façon ce vide qu'on a, qu'on ressent toujours, qu'on veut combler. On a peur du vide. Et en fait, la vérité, c'est qu'on cherche quelque chose de spirituel, mais qu'on ne pourra jamais trouver dans le matériel, dans l'acquisition des biens, même dans les relations. Hein, parfois, on va chercher ça aussi dans les relations humaines, hein, même dans des relations avec moi. Encore combien de fois, souvent, je vais dire à Mata, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu fasses ci, comme si j'allais chercher ma réponse en lui. Alors oui, il a de la sagesse, oui, Dieu l'a mis à mes côtés, et c'est bien, mais c'est pas lui mon sauveur, c'est pas lui qui va me combler. Notre bonheur et notre sécurité, ils se trouvent en Jésus. Jésus, c'est le bien suprême que personne ne pourra nous enlever. Il n'y a que lui qui peut venir combler, au fond, ce qu'on a. Que lui qui peut combler ces besoins en fait, profonds, parce que ça vient... En fait, tous nos besoins, là, les plus profonds, ils sont recouverts par ces biens, par cet appât de choses qui nous attirent. Et je lisais cette phrase qui me marquait, mais ce que je vous partage, ta vie est bien trop précieuse et courte pour perdre ton temps avec des choses qui n'en valent pas la peine, avec des choses qui sont futiles, qui au final, on s'en fiche à la fin. Et voilà ce que je voulais simplement vous partager ce matin. Et je veux vraiment vous inviter à... Ben on va peut-être prendre un temps pour prier, à fermer vos yeux et puis à demander. Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Sur quel aspect de ma vie tu veux parler? Qu'est-ce que tu révèles à mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Mes mains, elles sont pleines de quoi? Est-ce que c'est ce que tu m'appelles à vivre? Est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie? Est-ce que c'est un agenda qui est constamment surbooké, où j'arrive pas à dire non à toutes les opportunités qui s'offrent à moi? Est-ce que c'est un vide que je ressens, que je comble toujours par l'acquisition de biens? Ah, j'ai envie de ça, ah, je vois ça, paf, tout de suite j'y réponds. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dans les relations? J'ai du mal à me poser dans les relations. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Est-ce que j'ai une peur du manque? Est-ce que j'ai peur de manquer? Est-ce que parfois je me sens tellement seule que du coup je vais combler ça en remplissant, mais pas en me remplissant de toi? Et je vous invite vraiment à... Alors que le Saint-Esprit vous révèle, à simplement lui dire, à recevoir en fait ce constat que vous faites. Et peut-être que c'est douloureux comme nous, ça a été douloureux. Mais à dire, Seigneur, là, ça fait mal, Seigneur, de constater ça. Waouh, j'ai été aveuglée, j'ai pas voulu voir, Seigneur, mais toi, tu me révèles. Et c'est pas, Jésus ne vient pas t'accuser ce matin. Mais il vient te relever, il vient te dire, il y a un autre chemin, il y a un changement qui est possible avec moi. Et il y a un renoncement. Il y a un renoncement à faire. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à lui abandonner tout ça.